Il est tout juste 18h30 à Paris, 17h30 en temps universel, l'heure du débat du jour avec Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
Bonsoir Véronique, un peu de douceur dans ce monde de brutes. Ce soir nous parlons d'amour dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et oui, car demain, dans de nombreux pays du monde, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Mais actuellement, les amoureux ne sont pas vraiment à la fête. Il n'y a jamais eu autant de célibataires dans le monde, et cela soulève des enjeux démographiques primordiaux, puisqu'aujourd'hui, le renouvellement générationnel n'est pas assuré dans les deux tiers de la planète. À qui la faute ? On va évoquer ce soir Internet. Dans le débat du jour, les applications, est-ce qu'elles ont bouleversé la rencontre amoureuse ? C'est la question que nous posons. Ont-elles desservi la rencontre amoureuse ? Qu'est-ce que ce mouvement massif dit de notre société aujourd'hui ? Et que reste-t-il de la rencontre dans la vraie vie ? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Aurore Malécaras, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en neurosciences et sexologue, autrice du livre « Cerveau, sexe et amour ». Face à vous, Flore Chéri, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste au mensuel Union, qui est un magazine sur la sexualité qui a été créé dans les années 70. Et notre troisième invité est en ligne avec nous, Nathalie Nadeau-Albertini, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue des médias et chercheuse au CREM, Centre de recherche sur les médiations de l'Université de Lorraine. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, je parlais d'un mouvement massif, mais est-ce qu'on sait, un peu plus précisément que massif, je me tourne vers vous, Aurore Malécaras, ce que représentent aujourd'hui les rencontres sur Internet dans le monde. Est-ce qu'on peut évaluer ce phénomène ?
Justement, on en parlait avant, c'est assez difficile d'avoir des données précises. Je pense que Flore pourra continuer juste après, mais ça fluctue beaucoup.
C'est vrai que les données sont assez fluctuantes. Je pense notamment à une infographie qui a été publiée très récemment par l'université de Stanford qui montrait qu'aux États-Unis, on arrivait presque aujourd'hui à 60%, presque à 60% de rencontres. Alors non pas que sur les applications de rencontres, mais dans le monde digital au total. Ça inclut aussi les réseaux sociaux et pourquoi pas les jeux vidéo, parce qu'aujourd'hui il y a aussi de la rencontre sur les jeux de vidéo, sur les forums et sur tous les espaces.
Ça veut dire enfin simplement que la première raison de rencontre, le premier lieu de rencontre plutôt, il est sur Internet davantage que dans la vraie vie.
Aujourd'hui, le premier lieu de rencontre, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est considéré comme le lieu digital. Oui.
Le lieu digital. Est-ce que c'est un phénomène qui est mondial ? À quel point ce phénomène est mondial ?
Dans les pays développés, oui.
Ouais, voilà. Ouais. C'est vraiment Europe, France, pays occidentaux. On va beaucoup avoir ça, oui.
Ouais. Oui. Est-ce qu'on est tous égaux face aux applications pour rencontrer l'amour ?
Alors, c'est vrai que ça crée beaucoup de discrimination entre ceux qui maîtrisent les espaces numériques, ceux qui ne les maîtrisent pas. C'est vrai qu'on a une partie peut-être des seniors qui peuvent être dans une recherche amoureuse et se sentir un petit peu dépassés par ces nouveaux outils. Et puis, on a une jeune génération qui, eux, les maîtrisent très, très bien et qui se font peut-être moins avoir que leurs aînés ouais. sur les désillusions qu'on peut rencontrer sur la rencontre en ligne.
Et comment on peut expliquer cette montée en puissance Alors, ça ne date pas d'hier, hein, les applications, les sites Internet à l'époque, Mythique, qui a été un des premiers, ou peut-être le premier, qui a apparu dans les années 90 aux États-Unis, dans les années 2000 en France. Donc, ça va faire bientôt un quart de siècle, tout ça.
Ouais. En fait, il y a toujours eu des intermédiaires pour les rencontres. Avant, il y avait des agences matrimoniales, les mariages arrangés, c'est vieux comme le monde. Donc, il y a toujours eu une possibilité d'intermédiaire. En fait, c'est juste arrivé avec le numérique. Le numérique a bouleversé totalement nos vies, nos usages, nos comportements, possiblement même notre cognition, notre manière d'apprendre aussi. Donc, forcément, notre manière de relationner, notre manière de nous rencontrer n'est pas non plus épargnée.
Ouais. Mais alors, comment ça se fait que, enfin je veux dire encore une fois, vous dites qu'aujourd'hui le premier lieu de rencontre, c'est clairement, c'est plus la vraie vie, c'est Internet. C'était déjà le cas il y a 5 ans, il y a 10 ans. À quel point est-ce que ça a évolué rapidement ?
Ouais, la bascule, Flore Chéri. Elle a été faite certainement à partir de 2010, avec des sites de rencontres qui se sont peaufinés, qui ont appris de leurs erreurs, avec l'essor du Tinder, c'est-à-dire l'application qui arrive sur le téléphone.
Ouais.
Et on n'est plus du tout sur le site, la plateforme comme Mythique mythique où avant, c'était, fallait aller sur son ordinateur. Il y avait un temps un petit peu plus long entre le premier message, on recevait des mails avant de se rencontrer. Tinder a créé une forme d'immédiateté dans la rencontre avec un simple swipe. Et à partir de 2010, on a cette accélération de la rencontre dans le digital.
C'est Tinder qui a été le tournant parce qu'un swipe, c'est on balaye l'écran vers la gauche et hop, il y a une nouvelle photo qui arrive.
Vers la gauche ou vers la droite, si on like ou si on like pas. Mais en fait, c'est vraiment concomitant avec l'explosion des smartphones où, encore une fois, le numérique devient encore plus proche de nous. Et maintenant, on est tous avec nos téléphones. Le numérique est un peu comme une extension de nous, en fait. Et donc, forcément, les applications ont vraiment juste suivi le mouvement technologique. Et avec le geste du swipe, ça a vraiment créé une habitude qui a été vraiment reprise après par de très nombreuses autres applications et qui a vraiment changé la donne et facilité l'essor de la rencontre par le numérique.
Ouais. Nathalie Nadeau-Albertini, on ne vous a pas encore entendu, vous êtes en ligne avec nous. Vous qui êtes sociologue, comment est-ce que vous observez ce tournant, cette évolution majeure qui fait qu'aujourd'hui les rencontres amoureuses se font d'abord sur Internet ?
Mais pour moi, si vous voulez, c'est lorsque les gens vous parlent, ils vous disent, nous, ce qu'on aime bien, c'est que c'est un lieu pour la rencontre. C'est-à-dire que quand on va dans un café, dans une soirée, etc., on n'est pas forcément là pour rencontrer les gens, pour rencontrer des gens, pour faire une rencontre amoureuse. Alors que sur ces sites-là, c'est un lieu qui est clairement dédié à la rencontre. Et c'est ça que l'on recherche, si vous voulez. Souvent, vous avez des gens qui vont vous dire soit j'ai pas le temps avec ma vie professionnelle, j'ai changé de lieu, donc je ne connais plus personne. Vous avez aussi des gens qui sont restés en couple un certain temps et qui disent je sais plus trop comment faire. Donc finalement, aller sur ces applis, ça leur semble plus direct, plus franc.
Ouais. Mais ça révèle quoi finalement, ce besoin entre guillemets de séparer? On va dans un bar, on va au restaurant, on n'y va pas pour draguer, on n'y va pas pour rencontrer l'amour. Par contre, si on va sur une application, on y va pour ça.
L'idée, c'est que c'est de l'authenticité. C'est-à-dire qu'on est là pour cette raison-là, vous voyez ? Donc, on est sûr de ne pas se tromper en abordant quelqu'un. On est sûr de ne pas se tromper.
Et je pense que ce que dit Nathalie est assez juste, c'est-à-dire qu'une crispation peut-être des relations de séduction qui s'est créée après MeToo, où on a de plus en plus peur de mal faire, que ce soit dans le monde du travail, qui est aussi un gros vecteur de rencontres, historiquement, le rencontrer sur le travail ou dans le lieu d'études, c'est énorme. Là, on a de plus en plus de mal de séduire quelqu'un sans connaître ses intentions dans la vraie vie. Et donc, il y a un refuge, il y a une réassurance sur les espaces numériques.
C'est un raz-de-marée qui est en cours, dans le sens où aujourd'hui, les rencontres se font d'abord sur Internet, demain elles ne se feront que sur Internet, Aurore Malécaras.
Alors ça, on n'a pas de boule de cristal, mais non, c'est sûr que...
L'évolution sociétale. Il n'y a plus de rencontres dans la vraie vie, en fait, c'est ça le sous-titre.
Non, il y en aura toujours. De toute façon, les trois grands lieux de rencontre maintenant, ça va être le travail, les études, les amis d'amis ou les amis de la famille, et Internet. Donc je pense qu'on aura toujours cette triade qui sera toujours très très présente. C'est pour ça qu'on n'arrive pas toujours à avoir des chiffres très précis, parce que ça change beaucoup. Mais de toute façon, on a un raz-de-marée numérique et ces espaces sont de plus en plus présents dans nos vies. Et je trouvais très intéressant ce qu'a dit juste avant, en fait, c'est qu'on va aussi avoir, moi c'est ce que j'ai beaucoup en cabinet, des personnes qui ont été mariées et qui vont ensuite avoir envie d'aller faire des rencontres. Et le numérique est un très très bon outil parce que ils n'ont pas envie d'aller faire des rencontres après un divorce dans leur lieu, dans leur travail, dans leur entourage, etc. Et l'efficacité de l'outil numérique est très souvent mise en avant, et en effet le manque de temps. Parce qu'on parle beaucoup des jeunes qui utilisent les applications, mais il y a beaucoup de personnes qui vont aller utiliser le numérique, les applications et les sites de rencontres, pour un second mariage ou pour vraiment l'après-divorce. Et ça, c'est quelque chose dont on oublie beaucoup de parler, je trouve, dans les médias. Mais en réalité, sur le terrain, c'est ce qu'on a vraiment beaucoup. Et c'est vrai que bah, quand on est parent, quand on est divorcé, quand on a les enfants, le travail, enfin toutes les choses de la vie à gérer, bah, c'est pas facile. On n'a plus le même cercle social qu'on a quand on est étudiant, etc. Donc là, pour cette population-là, c'est très utile.
Et en ça, c'est peut-être adapté à nos temps où le divorce est beaucoup moins tabou.
Tout à fait.
Quelle rencontre fait-on sur Internet ?
Alors ça, c'est la force des applications de rencontres, c'est qu'on peut dire quel type de rencontre on veut faire. Est-ce qu'on veut des rencontres sérieuses pour se marier, fonder une famille ? Est-ce qu'on veut des rencontres d'un soir ? Est-ce qu'on veut des rencontres plus éphémères ? Est-ce qu'on ne sait pas ? Est-ce qu'on peut rencontrer des personnes, comment dire, de même catégorie socio-culturelle qu'on peut relativement filtré maintenant avec les applications. On a à avoir des applications très spécialisées, des applications très généralistes, des applications pour personnes végétariennes et véganes. Je suis un jour tombée sur des applications pour les cheminots de la SNCF. Enfin, on peut aller, aller très très loin, en fait, ouais. Notamment aux États-Unis. Donc, on rencontre qui on veut et ce qu'on veut.
Ça ne favorise pas l'entre-soi, sachant que déjà, évidemment, elle est un peu déterminée par l'entre-soi, la rencontre, mais là, ce n'est pas encore XXL.
Alors, Fleur Chérie. Clairement, l'entre-soi, ce n'est pas forcément un problème quand il s'agit de rencontres amoureuses. C'est ce qu'on appelle l'effet d'homogamie. On va plutôt privilégier un partenaire qui nous ressemble en termes d'âge, en termes de catégorie socio-professionnelle, en termes de valeur aussi, parce que ça va garantir la longévité d'un couple dans le temps. Plus vous avez des différences avec votre partenaire, en âge, en culture, en vision du monde de façon générale, plus c'est prédictif d'une potentielle rupture sur le long terme.
Ouais, alors, on ne va pas philosopher, mais différence, ça peut vouloir dire complémentarité aussi dans un couple.
Ça peut être facteur de risque.
Ah, ouais. Je confirme,
en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on a dans les thérapies de couple aussi, où on voit très très bien que c'est intéressant la complémentarité, mais ça a été très très vendu et très, monté un peu en épingle en réalité. C'est plus facile d'être avec des personnes qui viennent des mêmes origines que nous. Ça ne veut pas dire que c'est impossible d'être avec des personnes différentes de nous. Heureusement, il y a beaucoup de couples qu'on appelle des couples mixtes. Mais c'est plus commun si on veut faire quelque chose à long terme. Et c'est vrai que c'est plus solide.
L'être humain choisit dans ses préférences-là. C'est-à-dire qu'il va toujours, quelle que soit son origine, choisir quelqu'un qui lui ressemble. Et donc, les espaces numériques, de plus en plus, jouent sur l'homogamie. C'est pour ça qu'on a les cheminots de la SNCF. C'est quelqu'un qui me ressemble.
Mais Nathalie Nadeau-Albertini, en tant que sociologue, ça ne vous inquiète pas, ça, justement cette sur-ressemblance, en fait, renforcée par les sites de rencontres, les applications de rencontres.
Vous savez, elle existe dans la vie de tous les jours. C'est pas... Alors, très honnêtement, mon étude ne portait pas sur ce sujet-là. Donc, je vais vous donner un avis peut-être un peu plus personnel, qui est que ça existe dans la vie de tous les jours. Donc, pour les gens que je peux connaître autour de moi, je sais que la différence, c'est quelque part une forme d'attrait, de curiosité. Souvent, on y cherche une forme d'ailleurs. Mais en même temps, après, au quotidien, ça peut devenir quelque chose de compliqué à gérer parce que on a des habitudes différentes, on a parfois des langues différentes. Alors, quand je parle de la langue différente, on peut très bien parler une langue et parfois, quand on est très en colère, on revient à son autre langue, à sa langue d'origine. Ça peut donner des petites frictions qui font qu'on peut être amené à chercher des gens qui nous ressemblent.
Nathalie Nadeau-Albertini, à quel point les applications de rencontres rebattent les cartes du couple ? Il y a une phrase que vous avez déclarée dans la presse qui dit « On remarque que les individus qui se rencontrent sur Internet ne savent pas vraiment à quel moment ils sont en couple. » Ça renvoie à la question que je posais à Aurore Malekaras sur le fait de « Est-ce que les codes ont évolué et les possibilités se sont multipliées entre les rencontres d'une nuit ou d'une vie avec Internet ?»
C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ne savent, effectivement, ils ne savent pas s'ils sont en couple ou s'ils ne sont pas en couple. Puisque, que ce soit, comme vous le dites très bien, pour une nuit ou pour la vie, ils ne savent pas. En fait, ce qui devient déterminant, c'est le moment où ils vont décider de se dire à eux-mêmes qu'ils sont en couple et où ils vont décider de se le dire l'un à l'autre et après qu'ils vont décider de le dire à leur groupe de pères et à leur famille. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la façon dont ils vont raconter leur histoire, il y a une mauvaise image des sites de rencontres. C'est-à-dire que ils vont se dire que oui, ils se sont rencontrés sur un site ou une appli de rencontre, mais en fait, ils auraient pu se rencontrer autrement parce que tout ce qui avait été prévu ce jour-là, ça ne s'est pas passé comme ça. Ouais. Il y a eu une sorte de hasard qui ont fait qu'ils se sont rencontrés autrement. Et on a une narration qui se fait selon les codes du coup de foudre et de l'amour romantique. Et c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant parce qu'on parle de la prégnance des sites de rencontres, mais en même temps, ça n'a pas si bonne presse que ça, une si bonne image que ça, puisque les gens l'ont intériorisé dans leur façon de raconter leur rencontre.
Fleur chérie, ça soulève un point important. Est-ce que, effectivement, on l'a dit, les gens se rencontrent d'abord sur Internet aujourd'hui, mais est-ce qu'ils le disent tous? Est-ce que c'est complètement démocratisé aujourd'hui ou est-ce qu'il y a encore un petit tabou?
Je pense qu'il y a une vraie acceptation aujourd'hui de la rencontre sur les espaces numériques. Mais parce que la première vraie rencontre, elle se fait quand même en réel. Il y a une première approche, on va dire, qui est un peu détachée de l'émotionnel. Mais la vraie rencontre émotionnelle qu'on a avec quelqu'un, c'est vraiment le vrai jour où on la rencontre de visu. Et là, on a une vraie connexion qui se crée. Donc la narration romantique qui se fait autour de ça, elle a lieu vraiment pour les gens. C'est-à-dire que quand on la voit vraiment, cette personne, on se dit, mais on a tellement de points communs, il se passe tellement plein de choses. C'est le destin.
Mais on oublie que ça s'est passé sur Internet.
C'est pas qu'on oublie que ça s'est passé sur Internet, l'émotion, elle s'est faite dans la vraie vie. Ouais. La vraie rencontre émotionnelle, elle a lieu dans la vraie vie. Et la romantisation de la première rencontre, elle vaut pour les gens qui se rencontrent sur Internet comme pour tous les autres. C'est-à-dire que n'importe quel couple, vous leur demandez l'histoire de leur première rencontre, ça va être une narration peut-être un petit peu sublimée par rapport à la réalité. Ouais.
Ça, c'est quelque chose qui est très très important, cette recherche du script, de la narration, c'est quelque chose de fondamental et chaque couple va avoir besoin de construire vraiment un narratif, une histoire, parce que c'est l'histoire qu'on va raconter, enfin on est un peuple qui se raconte des histoires, ouais. C'est une espèce, nous sommes une espèce qui parle, et du coup c'est très très important. Moi ce que je vois en cabinet, c'est vraiment qu'il y a une période...
Je rappelle que vous êtes sexologue.
Oui pardon, je suis sexologue, du coup je reçois des personnes en cabinet. Moi j'ai vu un tournant aussi après le Covid, il y avait beaucoup plus de c'est bon, ça va, on s'est rencontrés sur Internet, c'est pas, enfin voilà. Et c'est vrai qu'avant, il y avait quand même une vraie pudeur, un peu une honte. Et c'est vrai que il n'y a pas si longtemps que ça, en réalité, c'était un peu la honte, entre guillemets, de s'être rencontrés en ligne. Et c'est un peu moins le cas avec les nouvelles générations aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment il y a vraiment beaucoup de paramètres, en fait. Et je pense que moi, ce que je vois, c'est pas quelque chose de totalement homogène. Il y a eu des périodes où c'était absolument tabou et les gens, ils le disaient un peu... Enfin voilà, limite, ils s'excusaient de s'être rencontrés en ligne alors que, en fait, justement, la rencontre, elle se fait ou pas, d'ailleurs, quand on se rencontre au premier rendez-vous.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Internet a-t-il bouleversé la rencontre amoureuse? La question qu'on pose ce soir à la veille de la Saint-Valentin. Mes trois invités, Aurore Malécaras, que l'on entendait, qui est docteur en neurosciences et sexologue, Flore Chéry, qui est journaliste au mensuel Union, magazine sur la sexualité, et Nathalie Nadeau-Albertini, sociologue des médias, chercheuse au CREM, le centre de recherche sur les médiations de l'Université de Lorraine. Alors évidemment, on va prendre un peu de hauteur maintenant sur ce phénomène. Qui veut que, alors c'est le premier grand enseignement de cette première partie de débat qui vient de passer, à savoir que les rencontres aujourd'hui se font d'abord sur Internet avant de se faire dans la vraie vie. Nathalie Nadeau-Albertini, on a évoqué finalement le fait que les codes ont changé, la notion de couple elle est moins évidente aujourd'hui, et je vais vous poser, vous qui êtes sociologue, cette question: est-ce que c'est une évolution sociétale ou, et ça amène ma deuxième partie, ou une menace familiale accélérée par Internet aujourd'hui, et je vais en venir à la démographie qui est complètement en baisse dans le monde. Je le disais au début de ce débat, un tiers de la planète où le renouvellement générationnel n'est pas assuré. Ça pose ces questions-là.
C'est-à-dire que ça dépend de la définition que vous avez de la famille. Là, dans ce que je perçois, c'est une famille assez traditionnelle. Mais on peut imaginer d'autres formes de famille.
J'entends famille, en fait, le fait d'avoir des enfants.
Oui.
Est-ce qu'Internet freine cela ?
Écoutez, moi, dans mes enquêtes, je n'ai pas trouvé ça.
Ok.
En revanche, ce que je trouve, ce sont des gens qui parfois me disent « moi, je ne veux pas avoir d'enfants ». C'est-à-dire que je ne veux pas avoir d'enfants parce que parfois c'est « je veux rester libre »,« je ne veux pas prendre cette responsabilité »,« je ne veux pas confronter mes enfants ou les enfants que je pourrais avoir à ce monde-là », notamment en termes écologiques. C'est des choses qui sont venues. J'ai pas sollicité ce genre de propos, mais c'est des choses qui sont venues. Mais c'est pas forcément parce que on passe par Internet ou par Internet. C'est vraiment un débat entre soi et soi.
Ouais.
Soit on décide d'avoir des enfants, soit on décide de pas en avoir. Oh. Après, parfois, en rencontrant quelqu'un, l'autre personne veut des enfants et on peut finir par changer d'avis. Mais parfois, non. Parfois, c'est plutôt un facteur de rupture du couple.
Flore Chéri, la question, c'est surtout, est-ce que la rencontre sur Internet, qui est donc majoritaire aujourd'hui, elle est porteuse ? Est-ce qu'elle est pérenne ? En 2023, 11% des 18-29 ans affirmaient avoir trouvé l'amour sur une application de rencontre. Et c'est intéressant parce que c'est la psychanalyste Fabienne Kremer qui disait que finalement, les plateformes aujourd'hui de rencontres n'ont aucun intérêt à ce que les gens se rencontrent. Elles ont intérêt à ce qu'ils consomment.
Alors, il y a un enjeu économique, vous avez tout à fait raison, à créer du célibat pour entretenir les applications de rencontres.
Et donc, on a dit que les célibataires sont plus nombreux que jamais aujourd'hui dans le monde.
Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une fabrique à célibat par les espaces numériques? Je ne vais pas forcément faire porter le chapeau aux applications de rencontres, même si elles ont un intérêt économique potentiel pour certaines à nous maintenir dans un état de célibat, peut-être. Et la question, si elle était posée différemment, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une menace sur la longévité du couple à cause aujourd'hui du numérique, on pourrait peut-être lui répondre oui. Parce que d'une façon insidieuse, elle fait créer dans l'idée des gens qu'il y a un vivier potentiel de nouveaux partenaires infinis et que ça va être très facile de faire des nouvelles rencontres. Donc, rester avec son partenaire, se battre pour son couple, faire des efforts, accepter le compromis est de plus en plus difficile si on se dit « ah ben, il y a une facilité à retrouver quelqu'un ». Donc, ça peut être une menace, c'est vrai, pour la longévité des couples. Et pour en revenir à votre histoire de démographie, les propos de Nathalie étaient très justes sur les raisons pour lesquelles on ne fait pas d'enfants, c'est-à-dire pour parfois des raisons de liberté et aussi pour des raisons écologiques. Mais il y a aussi une troisième raison qui est celle de la stabilité, qu'elle soit financière ou la stabilité de son couple. Or, quand dans son couple, on a de moins en moins de stabilité, potentiellement à cause des espaces numériques, c'est plus difficile de se lancer dans un projet bébé.
Aurore Malécaras, est-ce que, je rebondis surtout la première partie de la réponse de Flore Chéri, est-ce que les applications de rencontres aujourd'hui ne sont pas contre-productives ? Elle a posé cette question intéressante, est-ce que ce n'est pas une fabrique à célibat finalement aujourd'hui ?
Alors, il y a plein de manières de répondre à ça. En effet, il y a, le travail de Judith Duportail qui avait montré aussi qu'il y a des algorithmes aussi derrière certaines applications, je tiens quand même à le mentionner, pas toutes, que les personnes ne se rencontrent pas vraiment et que les rencontres ne soient pas vraiment pérennes pour qu'elles continuent à payer les abonnements, etc.
C'est l'amour sous algorithme,
Exactement, sous algorithme, tout à fait. Il y a quelque chose qui est très important, qui est aussi, qui a été l'objet du travail de Marie Bergström, qui est sociologue et démographe, qui avait fait sa thèse sur l'amour à l'ère du numérique, justement publiée en 2018 ou 2019. Et en fait, elle montrait que exactement ce qu'on vient de dire, c'est que il y a ce vivier potentiel, et précisément par romantisme et par amour, on pense qu'on va trouver la bonne personne encore plus. Et il y a vraiment cette illusion qui est entretenue de rencontrer une meilleure personne, d'avoir un amour encore plus beau, d'un amour encore plus fort dans toute cette potentialité auquel on a accès. Ça, c'est quelque chose qu'on avait aussi, pas du tout dans le numérique. Et on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, on a exactement les mêmes problèmes dans le numérique que dans la vraie vie. Ce problème de potentiellement rencontrer des personnes qui nous correspondent mieux, qui sont meilleures, qui sont plus belles,
plus riches, plus fortes. Sauf que c'est beaucoup plus sans limite avec le numérique.
C'est plus sans limite, mais ce qu'on avait aussi dans les grandes ville. C'était un phénomène qu'on avait beaucoup outre-Atlantique, notamment aux États-Unis, avec dans les grandes villes comme New York, Boston, sur la côte Est, toutes les personnes disaient ouais, mais on s'est rencontrés. Moi, j'étais en train, en début, de faire mes études. Maintenant, je suis diplômée. Je peux rentrer à ce niveau-là. Et il n'y avait pas nécessairement autant les applications à l'époque. Je parle du début des années 2010. Et vraiment, il y avait vraiment cette pensée de en fait, je peux avoir accès potentiellement à. Personne beaucoup plus riche. Et ça, ce truc-là, en fait, c'est pas le numérique, c'est pas Internet, c'est juste la psychologie humaine qui est comme ça.
Sur quoi tout cela va-t-il déboucher ? Il nous reste, trois minutes, parce que, en fait, on se pose la question de Internet est majoritaire dans les rencontres amoureuses, mais Internet ne parvient pas toujours à permettre l'amour sur le long terme, on l'a dit. Et en plus, on n'a pas encore évoqué ce concept de dating fatigue. Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui en ont marre de ça et qui décrochent. En fait, ça, finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'amour, il n'y a pas de solution pour demain ? Ça va donner quoi ?
Alors, je pense qu'il y a quelque chose, il y a le dating fatigue, et il y a aussi ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle maintenant le situationship. Et moi, c'est un mot que je ne connaissais pas, et les personnes me rapportaient ça en cabinet, et c'est des journalistes qui m'ont appris que ce mot existait. En fait, c'est des couples qui savent pas s'ils sont ensemble ou pas.
Et ça, ça rejoint épuisant. Un peu à la notion de couple, les cartes rebattues concernant le couple.
Exactement.
Mais ça, c'est ce qu'on disait, c'est aussi pas pérenne.
Mais ça, c'est très, très épuisant, et ça, c'est très problématique, parce qu'en fait, on a des situations, justement, où personne ne sait, sur quel pied danser, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on est ensemble pour 6 mois, et il y a des situations où au final les gens rencontrent pour autant la famille, les proches, mais non, on n'est pas encore ensemble.
Nathalie Nadeau, Albertini, sociologue des médias, ça dit quoi de notre société et finalement de ce qui nous attend ?
Je pense que ce que ça dit, ça renvoie à la liberté de l'individu. C'est-à-dire que la liberté de l'individu, c'est à la fois une libération, et en même temps, c'est un fardeau. Et à partir des années 60, on a dit à l'individu, sois toi-même, sois authentique, va au-delà des normes que les institutions ont prévues pour toi, etc. Et là, ce à quoi on assiste dans la formation des couples, dans la formation des identités, dans la relation amoureuse, c'est ça, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont émancipées d'un certain nombre de normes et qui cherchent comment faire, quitte à parfois être fatiguées du fait de chercher. Si vous voulez, pour moi, ça renvoie à l'individualisme contemporain.
L'individualisme contemporain, ça peut être un bon résumé, une bonne phrase de fin de notre débat, parce qu'effectivement, les problématiques soulevées par le fait que Internet a bouleversé la rencontre amoureuse, ces problématiques sont nombreuses. Merci beaucoup à vous trois, Nathalie Nadeau, Albertini, sociologue des médias, chercheuse au Centre de recherche sur les médiations de l'Université de Lorraine, Aurore Malécaras, docteur en neurosciences et sexologue, et Flore Chéry, journaliste au mensuel Union. Merci beaucoup à vous trois. Merci à Florence Pons qui était à la préparation de ce débat et à Claude Battista à sa réalisation. Rendez-vous sur rfi.fr pour podcaster ce débat du jour. Allez, dans une minute, ce sera le grand journal du soir avec Adrien Delgrange. Nous serons en direct de la conférence internationale sur la Syrie qui se déroulait ce jeudi à Paris. Et puis juste après, dans 30 minutes, Afrique Soir, la première édition. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Un coup d'œil au programme. Au Bénin, la Cour constitutionnelle a rendu aujourd'hui une décision très attendue sur les conséquences de la modification de la Constitution faite en 2019 par Patrice Talon.
Et oui, la Cour avait dernièrement été saisie par un membre de la majorité présidentielle pour savoir si cette modification signifiait nouvelle Constitution. Eh bien, les sages ont rendu leur décision. La requête a été rejetée, elle a été jugée irrecevable.
Un colloque au Parlement algérien consacré aux effets néfastes des essais nucléaires français sur la santé et l'environnement.
Un colloque organisé 65 ans jour pour jour après le premier essai atomique effectué par l'ancienne puissance coloniale coloniale dans le Sahara algérien. Benjamin Stora, qui co-préside la commission franco-algérienne d'historiens chargée de travailler sur la colonisation et la guerre à Alger, est aujourd'hui nous rappelle que nous expliquera les raisons pour lesquelles à Alger il est aujourd'hui très